Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Tous les sportifs vous le diront, la meilleure défense c'est l'attaque. Dans la catégorie rameur, Jean-Luc Mélenchon a sorti l'artillerie lourde pour faire oublier ses déclarations d'hier quand il prédisait un grave incident ou un meurtre dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, citant les attaques de Mohamed Merah en 2012 pour appuyer son raisonnement. Des propos complotistes, honteux, à vomir, ce sont là quelques-uns des termes que l'on a entendus alimentant une indignation quasi unanime. Non, il n'est pas complotiste, l'a défendu la députée insoumise Clémentine Autain. En attendant, cet après-midi, le chef de la France insoumise a donc tenté d'allumer un contre-feu dénonçant un appel au meurtre lancé via un youtubeur contre lui et contre ses militants. Pas sûr que tout cela, mis bout à bout, rehausse l'image de la politique. C'est évidemment un des sujets que nous aborderons à 18h15, dans un quart d'heure maintenant, avec Haïm Korsia, le grand rabbin de France. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce lundi 7 juin.
Et à la une ce soir, dernier préparatif avant la phase 2 du déconfinement, c'est mercredi, réouverture des salles de sport mais aussi des restaurants en intérieur. Dans ce journal également, des vaches masquées, mais rien à voir avec le Covid. Et puis on vous emmènera bien sûr à Roland-Garros. Petite frayeur tout à l'heure pour Djokovic, mais le numéro 1 mondial s'est finalement qualifié en ce moment. C'est Nadal qui est sur le court, mené 3-2, Nadal.
Ouais, les vaches masquées, ça m'intrigue quand même, j'ai hâte d'entendre ça.
Quelques secondes.
À 18h35, juste après l'œil de Natacha Polony, c'est Maud Fontenoy qui sera avec nous, elle qui publie chez Belin La mer au secours de la terre. Demain, c'est le soleil, Peggy Broche, oui, qui va venir au secours de tout le monde. C'est l'été presque partout.
Bonsoir, exactement. Peggy. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Alors presque, parce qu'il va rester quelques averses sur la façade est le matin. Elles tourneront à l'orage l'après-midi entre la Lorraine, les Alpes et la Corse. Sur les côtes de la Manche, quelques nuages en matinée, mais ça va vite se dissiper. Il fera beau partout ailleurs, sous des températures qui seront encore en hausse hein, demain, jusqu'à 31 degrés à Perpignan, 29 à Bordeaux, 27 à Paris, 25 à Lyon, 22 à Nancy et 20 à Cherbourg.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et on commence donc avec cette info qui nous a interpellé, Thomas. Des vaches bientôt masquées, oui, comme nous. Alors l'idée, ce n'est pas de lutter contre le Covid, mais contre le réchauffement climatique. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Tout ça est très sérieux. L'élevage, il faut le rappeler, c'est plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et avec ce masque, ces émissions de gaz pourraient être réduites de moitié. Alors à quoi il ressemble ce masque ?
Eh bien, il est bleu, mais en plastique rigide et il est fixé solidement avec des lanières au-dessus du naseau de la vache, donc elle peut continuer à manger tranquillement. Delphine Mekior est directrice qualité chez Cargill France.
La vache peut boire, se nourrir. Nous avons des études en fait de comportement qui montrent qu'on n'a pas eu d'influence sur la production laitière.
Alors ce masque, il aspire l'air. Donc quand la vache émet un rot, car ce ne sont pas les pets qui réchauffent le climat, mais les rots, le masque capte le méthane rejeté par l'animal et le transforme en eau et en gaz carbonique qui pollue lui aussi, mais 20 fois moins. Donc ça fait chuter les émissions des bovins.
Sur les premiers essais que nous avons dans des chambres respiratoires, on arrive à une diminution de 50% des émissions. Mais on travaille sur des prototypes encore plus avancés parce qu'on pense qu'on peut aller plus loin.
Alors le masque sera loué, 65 euros par an par vache. Les éleveurs devraient bénéficier de subventions vertes, d'aides, dès l'année prochaine. Donc vous verrez peut-être sur la route des vacances ou depuis le train dans les champs des vaches avec des masques bleus.
Tout va bien.
Tout est normal. Merci beaucoup Virginie. Virginie Garin. Ouais, on en vient à cette contre-attaque signée Jean-Luc Mélenchon. Après le tollé suscité hier par ses propos, le lien qu'il a fait entre terrorisme et élection présidentielle. Le président de la France insoumise a donc pris la parole cet après-midi. Bonsoir Jacques Seret.
Bonsoir.
Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une manipulation odieuse de ses propos.
Oui, il regrette un buzz affligeant, une post-vérité en action. Jean-Luc Mélenchon tente de désamorcer la polémique.
Je veux renouveler à cet instant, comme je l'ai fait à beaucoup d'autres dans le passé et encore au mois de décembre dernier, renouveler l'expression de ma compassion pour les victimes et les familles des victimes.
Quelques mots d'apaisement, mais Jean-Luc Mélenchon ne s'attarde pas sur ses propos tenus hier. Pas d'explication sur cette phrase, je cite, « Tout ça c'est écrit d'avance » en parlant des attentats, mais plutôt une riposte. Il se dit menacé et dénonce un appel au meurtre après la publication de la vidéo d'un youtubeur mettant en scène une attaque armée fictive contre un électeur insoumis.
Il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vu 100 000 fois. Je nous place sous la protection de votre opinion. Qui que vous soyez, je suis certain qu'aucun d'entre vous n'approuve une telle mise en scène et que plutôt vous êtes soulevé de dégoût et d'effroi.
Jean-Luc Mélenchon annonce porter plainte à titre individuel, mais diffuse aussi un appel à signature en ligne pour une plainte collective, comme une tentative de contre-feu après 24 heures de polémique.
Jacques Serret du service politique d'RTL, et c'est évidemment donc un sujet qu'on abordera avec Karim Corsair dans quelques minutes. Dans le même temps, Amandine, à l'Assemblée, les députés ont débuté pour la troisième fois l'examen du projet de loi bioéthique.
Un texte, vous le savez, qui ouvre la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, et soutenu, défendu tout à l'heure par Olivier Véran.
Cet article, nous pouvons en être fiers, et je le dis avec émotion, parce que je pense à tous ces couples de femmes qui, depuis tant d'années, s'engagent dans des parcours du combattant pour mener à bien leur projet parental. Je veux dire à toutes ces femmes que dorénavant, leur projet parental, leur projet familial sera pleinement reconnu et qu'elles seront accompagnées comme il se doit dans leur démarche.
La droite, elle, y est toujours farouchement opposée. Elle a d'ailleurs déposé les deux tiers des 1550 amendements, mais le gouvernement espère toutefois une adoption définitive au mois de juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines.
Concernant la crise sanitaire, l'Agence régionale de santé se veut ce soir plutôt rassurante après la découverte de plusieurs cas de variant Delta, c'est le variant indien, dans les Landes.
29 cas avérés, plus une vingtaine d'autres supposés. La plupart des patients se portent bien ce soir, c'est ce qu'explique Didier Couteau, le directeur général de l'Agence régionale de santé.
On n'a pas d'inquiétude particulière parce qu'on est vraiment sur 29 cas et puis en essayant de faire le tracing, on retombe tout de suite sur 15 foyers. Sur nos 29 cas, aujourd'hui, on n'a aucune situation grave, aucun décès, aucune personne en réanimation. Les petites hospitalisations sont souvent bénignes parce que les personnes ont parfois pris peut-être un peu trop de doliprane, on va dire. Il faut s'attendre à d'autres cas. On veut accélérer cette vaccination au plus près de ces 29 personnes, de leur lieu d'hébergement, de leur lieu de travail également.
Le directeur de l'ARS des Landes, au micro-RTL, le Philippe de Maria, vaccination accélérée. Hein, vous venez de l'entendre dans le département, dépistage renforcé. Mais les restaurants, les autorités l'ont confirmé, hein, rouvriront bien mercredi, comme ce sera le cas partout en France. Et oui, car mercredi,
c'est
le début de la phase 2 du déconfinement. Et à moins de 48 heures maintenant, eh bien, on s'active. Dans les restaurants, mais aussi les salles de sport et les thalassos, tous reprennent du service. Illustration à Saint-Malo, où vous vous êtes rendu, Nicolas Bobby.
Hydrothérapeute au terme de Saint-Malo, car elle retrouve enfin avec bonheur ses gestes professionnels.
Alors nous sommes en train de tester toutes les installations. Ça fait un bien fou. Oui, après 7 mois d'arrêt, on est vraiment très heureux de retrouver nos équipes et nos curistes.
Comme les 470 salariés, Marie-Vonne, agent de service, qui nettoie les abords de la piscine, est heureuse.
Ça fait énormément bien. Oui. Et là, je racle l'eau pour enlever toutes les impuretés sur le sol.
Reprendre le travail est un moment intense. Véronique Le Gall, chargée des relations publiques.
Émotionnellement, c'est fort. Depuis 7 mois, je suis au chômage partiel. Alors, avec quelques heures déclarées pour la préparation de la réouverture.
Olivier Rolic est le directeur général.
Là, on sent l'effervescence partout, les yeux qui brillent. C'est 7 mois, là, avec une perte de chiffre d'affaires de 40%. Donc, c'est très impactant au niveau de l'entreprise.
Ce patron est optimiste. Les réservations explosent pour les cures, avec en prime le bon air de Saint-Malo.
À Saint-Malo, reportage signé Nicolas Bobby.
Petit bruit de mer fait un bien fou. Dans un instant, quand deux étoiles se parlent, d'un côté Kylian Mbappé, de l'autre, et tout en haut, Thomas Pesquet, on vous raconte et on vous fait écouter tout ça.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h et presque 10 minutes, la suite du journal avec Amandine Bégaud. Les joueurs sont prêts.
RTL.
Roland Garros 2021. Ce serait classe. Ça y est, en tout cas,
oui,
Thomas Novak Djokovic est qualifié pour les quarts de finale.
Il est un petit peu chaud, quoi.
Oui, il a été un peu bousculé, on va dire, par l'Italien Lorenzo Musetti, l'une des révélations de cette année, qui a remporté quand même les deux premiers sets face au Serbe, avant finalement d'abandonner dans le cinquième. Sur place, on va retrouver Jean-Michel Rascol. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir.
C'est actuellement Nadal qui est sur le court, lui aussi, il a eu un tout petit peu chaud.
Ah oui, il est même en difficulté dans la première manche, puisque c'est Sinner, l'Italien, qui a dans sa raquette deux balles pour mener 5-3, agressé en permanence dans l'échange par ce teenager au tennis au look d'étudiant irlandais. Il a 19 ans, Jannik Sinner. Il est le premier joueur né au 21e siècle à avoir gagné un tournoi ATP. C'était l'an dernier à Sofia. Donc il colle à sa ligne, il oblige Nadal à défendre. L'Espagnol a déjà fait 13 fautes directes, étonnant pour lui, et c'est fait. 5-3 pour Sinner face à Nadal. Un mot du tennis féminin. Coco Gauff, l'Américaine, 17 ans, quart de finaliste pour la première fois à Roland-Garros. Le niveau monte aussi chez les dames.
Et on va suivre tout ça hein, de près, enfin ce qui se passe autour de Raphaël Nadal, avec vous tout au long de cette soirée.
Absolument.
Merci Jean-Michel. L'équipe de France de foot, elle, affronte demain la Bulgarie. Deuxième match de préparation avant l'Euro. Le premier en public depuis des mois. 5000 personnes hein, assisteront à cette rencontre qui est prévue, on le rappelle, au Stade de France. Et les Bleus...
C'est fou parce que la night session de Roland-Garros demain, ils n'ont pas de dérogation, mais au foot, ils ont droit.
Ah bah oui, ça...
Deux poids, deux mesures. Moi, je dis ça,
visiblement, ils ont mieux argumenté.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est ce qu'a dit Guy Forget hier sur RTL. Bon, les Bleus, qui ont aussi leurs fans à bord de la Station Spatiale Internationale, Kylian Mbappé a pris le temps d'échanger tout à l'heure avec Thomas Pesquet. Quand le footballeur préféré des Français parle à l'astronaute chouchou du moment, ça donne ça.
This is UEFA for ESA.
C'est fou ça.
Je vous laisse Kylian avec Thomas.
Bonjour Thomas, c'est vraiment un plaisir, c'est fou de regarder les images, de te voir.
Bah écoute, plaisir pour moi aussi. Tu vois, on a des ballons de foot. T'es un peu le premier à faire partie d'un vol spatial par ballon de foot interposé, donc félicitations.
C'est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté. J'ai un tas de questions, je sais même pas par où commencer. Je pense que chaque détail compte et vous devez beaucoup communiquer.
Ouais, c'est ça, on est parti à 4. On a rejoint 3 collègues dans la station, il y a plein de nationalités. La question que moi je voulais te poser, c'est nous, tu sais, on va vivre 5 mois un peu en vase clos. Je sais que vous, dans une grande compétition, c'est un peu la même chose. Comment ça se passe, tout ça, pour vous ?
Je pense que c'est important de créer un cadre où tout le monde peut s'épanouir et laisser personne de côté. Et c'est comme ça aussi que tu gagnes une grande compétition et que tu peux durer aussi, par exemple, dans l'espace, je pense aussi.
Ouais, c'est clair. On va suivre la compétition à l'Euro. Tu vois, j'ai déjà mon ballon. Les collègues sont plutôt fans de football américain, mais t'inquiète pas, je leur explique. Voilà, rendez-nous fiers. Moi, j'essaie de faire mon boulot pour donner une bonne image à la France et je sais que vous, vous le faites aussi.
C'était vraiment un grand plaisir. J'ai rempli mes yeux et mes oreilles.
À bientôt.
Leçon de communication.
Ah, on y est là. Hein, deux rois de la com. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et on va continuer, Thomas, figurez-vous, à pouvoir profiter des terrasses après le Covid. La mairie de Paris l'a confirmé.
Vous aviez prévu de tout refermer, vous ? Non, vous m'inquiétez un petit peu.
Mais non, mais les terrasses élargies, vous savez, celles
oui, sur les places de parking et tout ça.
Oui, d'accord. Eh bien, elles existeront désormais chaque année entre le 1er avril et le 31 octobre.
D'accord.
Alors, tous ceux qui habitent hors de Paris vont dire bah oui, mais ça existe déjà ailleurs. Effectivement, ça existe, on est bien d'accord, dans plein de villes. À Paris, donc, 1er avril, 31 octobre désormais, elles fermeront en revanche toujours à 22h pour limiter les nuisances pour les riverains.
Oh,
c'est quoi ça ? C'est un petit
santé ? C'est votre spritz.
Pas mal. Oh, j'adore.
On est en train de perdre complètement Amandine Bégaud, mais qui reviendra quand même à 18h30 pour le rappel des titres. À suivre, il vient d'être réélu grand rabbin de France. On ne l'a pas encore entendu sur les propos tellement controversés de Jean-Luc Mélenchon qu'on évoquait à l'instant. Haïm Korsia est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il vient d'être réélu pour 7 ans grand rabbin de France, Haïm Korsia, et donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Haïm Korsia.
Bonsoir.
Je voudrais vous faire entendre, pour commencer, les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon qui font polémique depuis hier. C'était donc...
Pardon, Thomas Soto, je sais que c'est votre journal. Est-ce qu'on est obligé d'entendre des ignominies pareilles ? Est-ce qu'on ne doit pas juste dire quelqu'un qui pense que, en gros, je schématise, qui dit que des attentats sont organisés pour détourner l'attention du public, c'est-à-dire que Gabriel Sandler, Ariel Sandler, Jonathan Sandler et Miramon Sonego en 2012 sont assassinés en gros par le pouvoir pour détourner l'attention et pour faire monter. Est-ce qu'on doit remettre en permanence ces paroles ? Je pense que non. Je pense que non. Et il y a un moment, il faut arrêter.
Mmh. Lui, il dénonce une monstrueuse manipulation de ses propos sur les attentats, Jean-Luc Mélenchon.
Oh, c'est bon.
Ouais.
C'est bien. Je crois qu'il y a un moment où on peut comprendre une erreur, on peut comprendre un mot mal compris, mais quand il y a en permanence des signaux qui sont envoyés vers une sphère hyper complotiste, qui en fait porte une forme d'antisémitisme insupportable, parce que ce complotisme est le substrat
Jean-Luc de Mélenchon est antisémite en tenant ses propos.
Écoutez, quand vous posez la question déjà, vous apportez une forme de réponse.
Non, c'est à vous de répondre.
Non.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite ?
Non, je pense que là, en parlant de ça, écoutez, en tout cas, moi, j'ai parlé à Samuel Sandler, le père de Jonathan Sandler et le grand-père.
Son fils et deux petits-enfants.
Voilà, et il connaissait bien Miramon Sonego. Pour lui, c'est clair, c'est de l'antisémitisme.
On est dans le champ de la République avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ou pas ? Parce que vous êtes un responsable religieux, vous devez parler aux politiques, à tous les politiques. Est-ce qu'il est dans le champ de la République ?
Ce qui me gêne terriblement, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé, qui a le don de la parole. Et pour lui, il n'y a pas de possibilité d'erreur de mot. Quand il dit un mot, il pense un mot.
Il sait exactement ce qu'il dit.
Voilà. Parce qu'il a ce poids de la parole. Et je pense que c'est très grave de jouer avec les mots dans un temps d'hyper-violence de la société, où on a besoin de bienveillance, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'intelligence, des liens humains, et pas de mettre de l'huile sur le feu, et pas d'encourager cette défiance générale de la société. Et je crois que cette responsabilité des élus, des uns et des autres. Cette responsabilité, il ne peut pas en faire fi en disant ce qui compte, c'est que je puisse attirer à moi des gens qui vont se dire « bon, il nous comprend, il est avec nous ». Non, on doit être capable de faire fi du mal quand on veut simplement faire avancer les choses. La société a besoin, je vous le redis, de bienveillance, et j'ose même le mot, de fraternité. Mmh. J'ose le mot fraternité parce que c'est la base même de ce qu'est notre République. Mmh. Et je trouve très dangereux cet encouragement à des sphères qui ont toujours joué contre la République.
Ça veut dire que vous ne considérez pas Jean-Luc Mélenchon comme quelqu'un qui perdrait la tête? Parce qu'en décembre 2019, vous aviez dit, parlant de lui, à l'époque il avait attaqué le CRIF, vous avez dit « il faudrait une bataille d'experts pour savoir s'il a son discernement ou pas ». Ce sont vos propos.
Oui, là encore, si le discernement est altéré ou aboli. Ça. En tout cas, à l'époque, il avait estimé que le fait que Corbyn sorte des radars de son parti en Angleterre. C'était la faute du CRIF. Je pense que là, il y avait déjà un début d'obsession. En fait, on touche là à l'obsessionnel et ça me fait de la peine. Je vous le dis, ça me fait de la peine parce que ce n'étaient pas les combats anciens de Jean-Luc Mélenchon. Et là, je crois qu'il y a des gens qui se perdent. Et peut-être que l'obsession des élections fait perdre le sens, non pas de la raison, le sens du devoir collectif, le sens du bien commun.
Encore une question là-dessus, puis on va passer à autre chose. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que la communauté juive attend de lui? Est-ce qu'il doit s'excuser? Est-ce qu'il doit présenter ses excuses, notamment aux victimes et à leurs familles?
Mais moi, je sais l'état dans lequel est Samuel Sandler. Cet homme souffre en permanence. Et là, il s'est senti mais gravement blessé, gravement atteint. Il voulait porter plainte. Je ne sais pas s'il a finalement demandé à ses avocats de porter plainte. Mais qu'est-ce qu'une plainte par rapport à la violence de ce qui lui est infligé, où on est en train de lui dire « mais non, c'est pas ce qu'on t'a dit, ce serait en fait organisé ». Mais organisé par quoi? On est dans quel système de rationalité? Je croyais que Jean-Luc Mélenchon portait un principe de rationalité. Moi, j'aime quand la rationalité rejoint une sorte de bien commun. Voilà, c'est rationnel, on explique les choses, on parle et on ne construit pas quelque chose qui pose en permanence un doute sur tout.
Mais vous, Haïm Korsia, en tant que grand rabbin de France, est-ce que vous demandez à Jean-Luc Mélenchon de présenter ses excuses?
C'est le moins qu'il puisse faire, vraiment. Mmh. C'est le moins. Après, il faut se poser des questions. Les excuses, ce serait quoi? C'est dire, bon, je l'ai dit, mais puis je le retire. Mais en fait, le signal vers celles et ceux qu'il veut absolument amener à lui a été envoyé. Donc je me pose
la
question.
Donc le mal est fait.
Oui, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions collectivement. Est-ce que quelqu'un qui dit ça n'a pas une responsabilité? Et que la justice dise si on peut légitimement faire croire tout ce qu'on veut aux uns aux autres. Vous savez, vous êtes en train, les médias, de monter quelque chose qui est formidable. Vous étiez l'un des pionniers dans cette station de vérification des informations. Mmh. Ben je pense que quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, ce même mécanisme collectif devrait être mis en place en disant « il a dit une horreur, il a dit quelque chose qui n'est absolument pas fondé, et donc il faut comprendre pourquoi il le dit ».
Et en tout cas, vous souhaitez que la justice se saisisse du dossier et se pose la question.
Bien sûr, vous avez raison.
Vous venez, je le disais, d'être réélu pour 7 ans grand rabbin de France. Emmanuel Macron, en 2017, s'est fait élire sur une promesse, celle de réconcilier les Français. On a l'impression, et on vient de le voir, qu'ils sont plus divisés que jamais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Haïm Korsia?
Je crois que ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas à un moment dans des conditions hors normes. Il y a eu le temps des attentats, et ensuite le temps de la pandémie. Il y a eu entre les deux, il y a eu cette révolte qui est montée, celle des Gilets jaunes. Donc, il y a eu vraiment des circonstances hors normes dans le pays. Moi, je pense que plus que jamais, nous avons besoin de bienveillance. C'est-à-dire de
Mais vous y croyez? Parce qu'on a l'impression. On demande, et certains demandent de la bienveillance.
Ça fait genre bisounours et gentil neuneu, hein. Je sais. Mais.
Non, mais est-ce que ça porte?
Regardez, quand il y a eu le début de la pandémie, la société a fonctionné avec des livreurs, des livreuses, des caissières, des caissiers. Des gens simples.
Regarde plus, qu'on n'applaudit plus, qui n'ont pas été augmentés comme ils devaient l'être.
Je suis d'accord. Mais vraiment, je suis absolument d'accord avec vous, vous avez raison. Parce que nous, à 20h, on applaudissait, alors qu'après, on s'est dit, oui, ils ne veulent même pas se faire vacciner. Donc, on se retourne très vite. Mais la réalité,
pareil,
c'est
avec les policiers que Renault embrassait en 2015 et à qui des gens crient « suicidez-vous » quand ils sont dans des manifestations.
Vous avez absolument raison, vraiment. J'étais dans ces manifestations, cette marche incroyable du 11 janvier 2015, et je voyais les gens embrasser les policiers, quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Voilà, merci, parce qu'on est avec vous. Parce que vous souffrez. Et j'avais la même chose avec « Nous sommes Charlie, nous sommes juifs, nous sommes policiers ». Après, j'ai vu ce qu'il en était. Mais au moins, il y a eu cet élan qui nous a permis d'avoir un horizon. Et peut-être que notre société a besoin de dire « Oui, je peux transformer les choses si chacun, à notre niveau, nous allons vers les autres, nous sommes moins dans ce dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours ramener les choses à soi, toujours attaquer, toujours créer une société de la défiance, d'enfermement, de la rupture entre les uns et les autres. Et vous savez, il y a un très beau commentaire de la Bible, si je vous parlais de Bible ici, qui dit que Moïse a envoyé des explorateurs en Terre Sainte, il leur a dit, regardez si les villes sont enfermées avec des murailles ou pas. Et nous, on pense, s'il y a des murailles, il faudra faire un siège, c'est long. Mon maître ne disait pas du tout. S'il y a des murailles, ce sont des gens qui ont peur, et s'ils ont peur, ils sont déjà perdus. S'il n'y a pas de murailles, c'est une société forte, nous devons faire tomber les murailles entre nous. Et c'est ce qu'on a vu, moi j'ai été impressionné. Vous savez, les rabbins en France, comme les prêtres, comme les pasteurs, comme les imams, ont assuré les cérémonies d'obsèques des familles, dans des conditions dantesques, avec 20 personnes maximum au début de la pandémie. Mais le personnel des pompes funèbres était là. Et ces personnels, personne ne leur a dit bravo, personne n'a applaudi, mais ils étaient là, avec les familles, pour les familles. Et je me dis, cet engagement pour les autres, parce qu'ils auraient pu faire comme tout le monde, rester chez eux et toucher le salaire et pris en charge par l'État. Non, ils ont dit, je dois être présent pour ces familles.
Et donc c'est là que vous voyez des raisons d'espérer, oui, de ne pas se désespérer. Le niveau d'antisémitisme vous paraît-il particulièrement inquiétant aujourd'hui en France, ou est-ce qu'on est dans le ni mieux ni pire qu'avant, entre guillemets ?
Ni pire ni mieux, c'est déjà grave. N'importe quel niveau.
Non, on a ce sentiment que tout se dégrade en ce moment. On a l'impression quand on allume la télé, quand on écoute la radio, quand on écoute
tout. En tout cas, sur Internet, c'est assez terrible. Puis la violence de la société frappe tout le monde. Mais je crois qu'il faut être capable de dire je n'accepte pas un niveau quel qu'il soit de haine, d'antisémitisme, de racisme. Or, notre société, c'est terrifiant. Regardez par exemple, un livreur, il est expulsé. Formidable. Un livreur à Strasbourg refuse de servir les Juifs. Il est expulsé. Et ces faits se répètent un peu partout. Une caissière est traitée de noir par quelqu'un dans un hypermarché. Vous pouvez me dire.
Et Carrefour porte plainte.
Mais ils ont raison de porter plainte. Parce qu'ils doivent défendre leur personnel. Moi, quand par exemple, je suis très attaché par exemple aux Antilles, quand on me dit mais vous êtes où? Vous êtes de France? Je dis mais les Antilles, c'est la France. Et qui vous permet de dire qu'on soit moins français selon la couleur de notre peau? D'où ça sort? En fait, on oublie de refonder quelque chose depuis le départ. Et le départ, c'est la dignité humaine. Elle est la même pour tout le monde.
J'ai une dernière question à M. Corsia. En quelques mots, c'est quoi être juif dans la France de 2021?
Je crois que c'est espérer malgré tout. C'est se dire, oui, c'est pas forcément extraordinaire, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Et puis si on se met tous ensemble, on peut transformer les choses, on peut transformer le monde, on peut transformer notre monde. Et peut-être qu'avant de transformer les autres, on doit commencer à transformer quelque chose en nous. Alors voilà, moi je suis arrivé, puis pardon, vous m'avez posé une question qui m'a crispé dès le départ, je me suis emporté, j'ai eu tort, parce que vous êtes formidable.
Vous avez dit ce que on n'a jamais tort de dire ce qu'on pense. Hein.
Non, mais parce que, si vous voulez, j'ai reçu juste avant l'émission, j'ai reçu un message de Samuel Sandler, et j'ai tellement de peine pour lui, que j'accompagne, que j'ai porté dans mes bras, vraiment, le jour où il revenait de Toulouse, le jour même des assassinats. Et lui, et toutes les familles des victimes, et chaque fois, on est avec eux. Et mépriser cette souffrance, c'est d'une certaine façon refuser la société de fraternité. Et moi, je crois que le judaïsme apporte cela dans la société, toute société, de l'espérance quand d'aucuns ne voient que de l'obscurité.
Merci à vous d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci infiniment. Dans un instant sera l'œil de Natacha Polony, juste après le rappel des titres.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL. 18h30.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et ce soir sur RTL, le grand rabbin de France condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus hier par Jean-Luc Mélenchon. C'est dangereux, dit Aïm Corsia. L'obsession des élections lui fait perdre le sens du collectif, du bien commun. Fin de citation. Dans l'actualité également, l'agence régionale de santé qui se veut ce soir plutôt rassurante après la découverte de 29 cas de variant Delta, le fameux variant indien dans les Landes. La situation est sous contrôle, expliquent les autorités qui vont toutefois intensifier la vaccination et le dépistage dans la région. Et puis Roland Garros, et après la qualification cet après-midi de Novak Djokovic, c'est Raphaël Nadal qui est ce soir sur le court. Jean-Michel Rascol, Nadal qui a bien failli perdre le premier set quand même.
Oui, mais quelle réaction, il était mené 5-3, il a marqué 4 jeux de suite pour enlever cette première manche 7-5 en 59 minutes. 30 points pour Nadal, 21 pour Jannik Sinner. Pour l'instant, Nadal a trouvé la bonne carburation. D'ailleurs, c'est lui qui démarre le deuxième set au service.
En général, quand il galère dans le premier, après il enchaîne les deux suivants. Dans une demi-heure, vous êtes couché.
Merci Jean-Michel, à tout à l'heure.
La météo Peggy, il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau, et on se le répète parce qu'on a attendu. Il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau.
Exactement. Alors, beau pas partout, parce que c'est vrai, il va faire beau sur les trois quarts du pays après dissipation de quelques nuages, notamment sur les côtes de la Manche. Mais c'est vrai que sur la façade est, entre la Lorraine, les Alpes et la Corse, là, le temps sera encore nuageux le matin, quelques averses et des orages dans l'après-midi, parfois fort encore sur les Alpes du Sud, accompagnés de grêle. Ailleurs, du beau temps et surtout de la chaleur, jusqu'à 31 degrés à Nîmes, 29 à Toulouse et Cognac, 27 à Paris, 26 à Tours, 22 à Caen et 20 au Havre.
Merci Peggy. L'œil de Natacha Polony. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Alors les propos de Jean-Luc Mélenchon dimanche sur ces graves incidents écrits d'avance dans la dernière semaine des élections pour montrer du doigt les musulmans n'en finissent pas de faire réagir. On en parlait à l'instant avec Haïm Korsia. Lui, Jean-Luc Mélenchon, il reste droit dans ses bottes, hein, c'est ça?
Bon, en même temps, c'est pas le genre de Jean-Luc Mélenchon de reconnaître qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Hein. Alors il aurait pu pourtant s'en tirer dignement, expliquer qu'il avait voulu dénoncer l'instrumentalisation par les médias de faits divers ou d'actes de terrorisme pour ne pas parler de sujets économiques ou sociaux. On aurait pu objecter diverses choses, en accorder d'autres, mais ça, ça aurait été un débat digne d'intérêt. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit ça. Et l'autre problème, c'est qu'en fait, ces propos, bah, c'est un cadeau merveilleux à tous ceux qui voudraient nous convaincre que toute forme de critique de la dérive oligarchique de la démocratie, ça, c'est le fait de méchants complotistes.
Mais de fait, ce qu'il a dit, on peut considérer que ça relève du complotisme.
Oui, même s'il ne faut pas en fait abuser de ce terme. Disons qu'il a clairement dragué la frange la plus complotiste de son électorat. La première partie de son raisonnement sur un candidat sorti du chapeau qui permet à l'oligarchie de se maintenir, c'est simpliste, surtout que en fait, ça s'applique à Emmanuel Macron, d'accord, mais pas avant, puisqu'il y avait justement la fausse alternance UMP-PS. Et puis faire le parallèle avec l'Amérique latine, l'Ukraine, c'est totalement absurde. Mais surtout, en revanche, voilà, ça, on peut en discuter. Mais ce qu'il ajoute sur les attentats, ça, c'est proprement dégueulasse. C'est pas seulement maladroit, c'est vraiment dégueulasse, parce que c'est pensé pour racoler un électorat qui veut croire que les musulmans, comme si ça existait dans leur ensemble, les musulmans, seraient des boucs émissaires.
Alors il s'est défendu aujourd'hui, il a parlé d'une odieuse manipulation.
Oui, et puis du coup, surtout, vous avez remarqué, il y a ces lieutenants qui dénoncent une vidéo d'extrême droite qui appellerait au meurtre. C'est histoire de faire contre-feu, ça c'est une habitude, hein. Il inverse les rôles pour faire croire qu'il est une victime et qu'on cherche à le faire taire. Mais on aimerait bien comprendre où serait la manipulation, parce qu'il y a un fait. Jean-Luc Mélenchon met sur le même plan les possibles excès médiatiques autour d'un fait divers et le meurtre d'enfants juifs par Mohamed Merah. Mais de quoi est-ce qu'on parle? C'était, souvenez-vous, c'était le 19 mars 2012, un mois et demi avant le scrutin. Et avant qu'on ne connaisse l'identité du meurtrier, il faut aussi se souvenir de ça, Edoui Plenel et François Bayrou avaient expliqué que c'était la faute du Front National, puisqu'on pensait que c'était un fasciste. Et quand on a su que c'était un islamiste, eh ben rien. Rien. Aucune réflexion, aucun impact. Il y a eu des enfants tués à bout portant et rien. Je ne sais pas où Jean-Luc Mélenchon a vu que ça avait orienté les élections. Et c'est la même chose pour le meurtre de Xavier Jugelet en 2017. Rien, on était à temps plein sur les costards. Et après Charlie, est-ce qu'il y avait une élection? Ah si, il y avait une sénatoriale partielle après Charlie. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Donc en fait, Jean-Luc Mélenchon vient nous raconter que tout ça, ce serait monté en épingle pour créer un climat de guerre civile et que donc lui serait le seul à résister à la fascisation des esprits. Mais quel électorat essaie-t-il de draguer? Parce que pour l'instant, il y a juste Alain Soral qui vient de le féliciter sur son site. Donc les Français, eux, ne veulent pas d'un second tour Macron-Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon, il se donne beaucoup de mal pour qu'il n'y ait rien d'autre.
Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui est avec nous tous les lundis, et demain nous retrouverons
Philippe Cavrière.
Et ça va nous faire du bien. Hein.
Mais
ça
oui.
va... Ouh, petite respiration. Merci beaucoup à vous, Natacha. À la semaine prochaine. La mer, elle l'a parcourue à la rame. Aujourd'hui, elle en est la meilleure avocate. Maud Fontenoy, qui publie La mer au secours de la terre, et l'invité d'RTL Soir, c'est tout de suite et c'est en direct.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Son livre, La mer au secours de la terre, vient de sortir aux éditions Belin. Maud Fontenoy est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Maud Fontenoy.
Bonsoir.
Alors ce livre, c'est la suite du livre bleu, hein, écrit sur les photos de Yann Arthus-Bertrand. La mer au secours de la terre. Ce titre déjà m'a interpellé parce que j'avais l'impression que moi, la mer était en grand danger et que la terre et nous, les humains, étions en train de la tuer, la mer, non?
C'est vrai que souvent, quand on parle d'environnement, on commence quand même déjà par un constat assez négatif. Après, quand on parle d'environnement, on pense souvent forêt amazonienne et on pense un peu moins aux océans. Mmh. Et malheureusement, les océans sont les grands oubliés. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai vu que vous passiez un sonore de Thomas Pesquet. Et il est le premier à dire, hein, quand je vois ma petite planète, c'est d'abord une petite boule bleue. Mmh. Et ce qui est fascinant, parce que moi, j'ai adoré à travers mes expériences et puis ces 15 ans au sein de ma fondation pour travailler sur ces thèmes, c'est que la vie, elle est née dans la profondeur des océans. Donc chacun d'entre nous, on vient, il y a 4 milliards d'années, la vie naît dans les profondeurs et elle évolue pour ensuite rejoindre la Terre. Et donc toutes les solutions sont là parce que c'est le berceau de la vie et c'est à la fois avec lui qu'on va construire notre avenir.
Alors ça, on va y venir, la mer solution. La mer, ses poissons, ses coquillages et son plastique. Le plastique qui, écrivez-vous, tue chaque année 1 milliard d'oiseaux marins, impacte des centaines d'espèces de tortues, de cétacés, de poissons. Au-delà de ça, on déverse 10 millions de tonnes de déchets dans l'océan chaque année. J'arrête là parce qu'on va déclencher l'alerte des primes. Est-ce que la mer n'a pas déjà perdu la partie? Est-ce que tout ça, c'est rattrapable, entre guillemets?
Alors, moi, je suis convaincue déjà que tout est rattrapable, parce que si vous me voyez là avec mes deux petits bras, et que j'ai réussi à traverser les océans à la rame, oui, c'est vraiment que tout est possible. Donc non, toutes les solutions sont là dans le livre. C'est vrai que cette problématique du plastique, elle est majeure, parce qu'on se le disait hors antenne, on mangerait l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent de la taille d'une carte bleue.
Toutes les semaines, on mange sa carte bleue en plastique, voilà.
C'est terrible de se dire ça, de se dire qu'on a retrouvé des microparticules de plastique dans le placenta de la mère et qui a été ensuite transmis à l'enfant. Et de se dire, c'est intéressant, que dans les années 50, on produisait environ 2 millions de tonnes de plastique. Aujourd'hui, on en produit 360 millions de tonnes de plastique par an. Donc on voit bien qu'on... Et alors on en recycle combien ? Environ 8%. Donc en France, on en recycle environ 22%. Et ça veut dire que la grande majeure partie de ce plastique, il retrouve dans la nature. Parce que dans nos pays développés, bien sûr qu'on traite les eaux. Mais dans des pays en voie de développement, eh bien, la majeure partie de l'eau sale, elle est rejoint la mer. Et donc, c'est là où elle rejoint tout le cycle de l'eau et qu'elle rejoint ensuite notre assiette de sushi, l'eau qu'on va boire, et que maintenant, ces microparticules sont partout.
Et c'est comme ça qu'on mange notre carte bleue. Alors, vous nous présentez l'océan comme une puissance économique dans ce livre. Vous dites que ce serait la 7e puissance économique mondiale. Ça veut dire quoi ?
Mais ça veut dire qu'en fait, les océans, c'est à la fois une immense bibliothèque. Donc c'est une ressource infinie.
Alors, une bibliothèque qu'on connaît mal. Hein.
Voilà, et c'est exactement ça. C'est comme si tu étais devant tous ces livres et qu'en fait, les livres, on ne saurait pas les lire. On sait qu'en les prenant, en les brûlant, ça fait un peu d'énergie. Mmh. Voilà, c'est pas mal. Mais on ne sait pas tout ce que ça peut nous apporter. On abîme, on écrase de nos pieds toutes les espèces qui ensuite, demain... Pour vous prendre un exemple simple. Le premier prix Nobel sur la mer, il y a 13 prix Nobel. Il y a 22 000 molécules marines qui viennent du milieu marin. 13 prix Nobel. Un qui est en 1908 sur l'étoile de mer, qui a permis de comprendre la prolifération des cellules cancérigène. Donc là, on est en 1908. Là, en 2019, on a découvert, c'est un deuxième prix Nobel, on a découvert grâce à l'éponge de mer une molécule qui allait permettre de lutter contre le cancer. Et ça, on aurait pu,
vous voyez, passer à côté. Vous parlez aussi de la trithérapie qui vient de je crois, c'est des vers marins, c'est ça ?
Des harengs, et qui permet de lutter contre le sida. Mais vous voyez, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a des choses que, voilà, c'est par méconnaissance, finalement, on connaît que très peu, on est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans. On connaît que 10% de toute la richesse océanique.
Donc le message, c'est quoi ? C'est allons-y, explorons, cherchons, profitons de ce trésor qui est là et arrêtons de faire juste des océans une poubelle, c'est ça ?
Exactement. Le message, il est clair. Il est un, la France est la deuxième puissance maritime mondiale, donc on a un rôle à jouer, on a une responsabilité et on a devant nous un potentiel incroyable. Deuxième chose, c'est que pour protéger, il faut d'abord aimer. Pour aimer, il faut connaître. Et donc, il va falloir investir plus dans la recherche. On a été leader dans la recherche spatiale, dans beaucoup de technologies. Il faut qu'on soit aujourd'hui dans le maritime. Donc, il faut un peu plus investir. Et puis, c'est vrai qu'il va falloir penser que les océans qui font les trois quarts du globe sont en fait un géant au pied d'argile. Ils sont menacés par les activités des hommes. Et que quand tu dégrades en même temps les solutions pour ton avenir, c'est complètement ridicule, puisqu'ils nous donnent la nourriture que l'on mange, ils régulent notre climat, ils nous donnent l'eau que l'on boit.
Des solutions concrètes. Il y a plein d'exemples concrets dans le bouquin, et c'est ça qui est très intéressant. Par exemple, la crevette peut être une alternative à la bouteille d'eau.
Alors, la crevette permet de faire un bioplastique, ouais. Et c'est là où on cherche des alternatives. Alors, il y a les polymères qui sont créés par l'huître, il y a des petites bactéries qui créent un certain polyester, et puis il y a la crevette associée avec de la soie qui va créer un bioplastique qui va nous permettre de fabriquer probablement des bouteilles demain.
Vous nous disiez, on est en France, la deuxième puissance
derrière les États-Unis.
Voilà, maritime. Notre consommation de poissons, vous en parlez, vous dites on mange 34 kilos de poissons par habitant. Donc les parents sont contents, les enfants mangent du poisson, sauf que sur ces 34 kilos, il y en a 24 qui sont importés. Vous parlez même d'un bateau qui est capable de pêcher 14 000 tonnes de poissons en une sortie. Alors, c'est une sortie qui dure plusieurs semaines, mais 14 000 tonnes. Comment vous faites pour changer ça dans une économie mondialisée où les prix sont tirés vers le bas, où l'obsession c'est les prix et c'est qu'il y a une offre gigantesque partout ? Comment, une fois que vous avez fait ce constat, qu'on partage, comment on fait pour changer le monde ?
Alors c'est certain que la problématique marmite de l'humanité, elle nous fait réfléchir, parce qu'il faut quand même savoir que 1 kilo de thon, on se servit de 10 à 20 kilos de poisson pêché pour nourrir le kilo de thon. Donc tu vois, tu as une incohérence. Donc premièrement, il va falloir qu'on achète du poisson français qui est principalement pêché par de la pêche artisanale, hein, 84% de tout ce qui est pêché est pêché
donc,
par
des... Donc qui va être plus cher ?
Qui va probablement être un peu plus cher, mais qui aura au moins respecté les cycles de reproduction. Et puis il va falloir peut-être qu'on pêche un peu plus plus, de façon un peu plus responsable. Donc oui, l'élevage avec des poissons qui sont élevés avec des farines végétales, pour éviter qu'on tue des poissons pour nourrir le poisson d'élevage. Et puis, vous le savez, je prends parfois cet exemple de ces poissons qu'on mange alors qu'ils ont des œufs. Oui. C'était comme si on mangeait une vache alors qu'elle avait encore son veau. Et c'est quelque chose qui paraît surprenant. Et aujourd'hui, dans les Canaries, on fait une zone de test. On a mis les femelles qui portent des œufs pour justement qu'elles puissent... Une femelle, Saint-Pierre, ça va porter environ 300 millions d'œufs sur une seule femelle. Donc quand on tue des femelles qui ont des œufs, c'est absurde. Et la nature, d'ailleurs, ne fait pas ça. Le dauphin, quand il pêche, il fait des cercles avec ses bulles, il fait un certain sonar, il détecte quand la femelle est pleine pour la mettre de côté pour ne pas la manger. Donc si on s'inspire mieux de la nature, si on arrive à l'étudier, et ça a 4 milliards de R&D, donc tout est là, tout est sous nos yeux, eh bien on assurera une pérennité.
Et c'est la Blue Society que vous décrivez dans ce livre. Vous l'évoquiez, vous avez traversé l'Atlantique, le Pacifique à la rame. C'est là que la mer vous a parlé, Maud Fontenoy. C'est là que la rencontre s'est vraiment faite.
C'est vrai que moi j'ai un amour charnel avec l'océan parce que j'ai passé plus de temps de ma vie sur les océans que sur la terre ferme. Et surtout à travers les mers, me suis rendu compte que tout est possible. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que dépossédé de tout dans un tout petit bateau à rame avec un petit habitat cercueil d'un mètre cube dans lequel t'as plus d'oxygène pour respirer au bout de 20 minutes et où tu rames 8 à 10 heures par jour, ouais. Peu importe. Chaque soir quand tu te couches, tu te dis j'ai donné le meilleur de moi-même et finalement cette grande montagne qui paraît cet océan immense à traverser, avec ce sommet dans les nuages, et ben bout après bout, morceau après morceau, coudrin après coudrin, même le plus grand des océans, tu le traverses. Ouais. Et le défi qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est aussi une opportunité. Et c'est pour ça que mieux comprendre nos océans, c'est trouver des solutions pour notre économie, et ce livre, c'est toutes ces idées qui permettent, j'espère, de redonner aussi un peu espoir.
Éric Tabardy disait « La mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils sont à la plage. » Vous, à la fin de votre livre, vous citez Einstein, « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Donc nous tous, hein, globalement. C'est à chacun de nous d'agir. C'est quoi le message? C'est ça? Où est la clé?
Oui.
Parce qu'il y a cette vision, on peut se dire c'est un peu une vision militante, un peu romantique, mais la clé, le réalisme dans tout ça.
Non, justement, ce livre, il est très pratique, il est très pragmatique, justement. Il est pas donneur de leçons. Chacun peut agir. Il y a les gestes dans le livre, il y a les gestes que je peux faire moi au quotidien, tous les jours. Il y a les gestes qu'on doit faire au niveau national pour notre pays. Et est-ce qu'on doit faire au niveau international? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'incohérences. Imaginez que tu as 60% de la haute mer qui est sans juridiction actuellement. Mmh. C'est un Far West, on peut y faire ce qu'on veut. On est là en 2021, oui, il y a 60% de la haute mer où on peut piller. Donc il y a beaucoup de choses à faire à tous les niveaux. Et personnellement, on peut aussi agir, et notamment là, on va bientôt aller à la plage, il va falloir penser à mettre des crèmes solaires Ocean Protect qui permettent de ne pas avoir des filtres chimiques dans les océans qui dégradent ensuite la qualité de l'eau.
Et pas rajouter du malheur à l'eau. Merci beaucoup Maud Fontenoy, votre livre s'appelle donc La mer au secours de la Terre et c'est publié chez Belin. Merci d'être venu
Merci,
voir ce soir.
Merci, bonjour à tous.
Merci. Lilibeth est venue, vous connaissez Lilibeth ou pas, non?
Non.
Deuxième enfant du couple Harry et Meghan, et Julia Molcou a été émue, contrairement à vous qui avez laissé passer cette information. Et comme elle ne changera jamais Julia, eh bien c'est bien au papa qu'elle va s'intéresser. C'est tout de suite dans la culture de l'actu.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
18h50, la culture de l'actu. Julia Molcou, bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Harry, le petit-fils de la reine d'Angleterre, a donc accueilli avec sa femme, Meghan Markle, leur deuxième enfant. C'est une petite fille. Elle est prénommée Lilibeth. Alors ce soir, dans la culture de l'actu, on parle de paternité.
Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité.
Personne ne sait comment on fait les papas. Et d'ailleurs, la paternité dans l'histoire et donc dans la culture, eh bien, fut pendant longtemps représentée par une figure de père autoritaire, absent ou défaillant. On trouve assez peu d'histoires de paternité quotidienne au 18e ou au 19e siècle, encore moins chez les artistes. Comme si donner un biberon ou changer une couche empêchait la créativité ou tout simplement gâchait le sexe symbole. Mais heureusement, petit à petit, les choses ont changé.
Alors, Patrick, est-ce qu'il vous est arrivé de changer les couches de vos enfants?
Bien sûr.
Oui. Même quand il y avait du caca?
C'est vrai?
Oui, moi, je change les couches.
Non, mais c'est vrai, tu fais ça?
Oui, ah,
c'est jamais arrivé. Non, mais je suis admiratif, moi.
Bon, il n'y a pas d'admiration à voir. Il y a des gens pour qui c'est naturel, d'autres pour qui ça l'est pas. Je crois qu'il n'y a pas à juger. Moi, c'est instantané.
C'était en 2006 et ça a épaté encore Thierry Ardisson, ouais, d'entendre Patrick Bruel raconter qu'il changeait les couches. Mais voilà, s'occuper de ses enfants, jouer avec eux, les baigner, les changer, les nourrir, avoir peur pour eux ou être ému par leurs dessins et en être fier, les artistes, comme ici, se sont mis à en parler librement. Et ces nouveaux pères tendres et impliqués, eh ben, on les a vus débarquer dans la chanson et au cinéma.
Dis-moi, t'es sûr que tu veux entrer à l'école cette année? Sinon, il n'y a pas de problème, je t'assure. Au contraire, ça peut attendre 5 ou 6 ans.
Allez, papa, je vais être en retard!
Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria?
Oh,
la semaine dernière, elle n'est pas venue du tout.
Ah bon? Même pas le lundi?
Papa, on est super copains?
Oui.
Et rien ne nous séparera jamais.
Simba, je vais te raconter ce que me disait mon père.
T'aimes quoi comme gâteau, toi?
Moi, j'aime les Chamonix.
Ah non, pas les Chamonix. C'est dégueulasse, les Chamonix.
Bah, moi, j'aime bien.
Non, enfin, je suis ton père. C'est ce que t'aimes et ce que t'aimes pas.
Alors, le père du petit Nemo voudrait que son fils ne grandisse pas et n'aille pas à l'école. Le personnage d'Omar Sy dans Demain tout commence est un père avec qui la vie est un jeu. Mufasa est un mélange d'autorité et de tendresse avec Simba dans Le Roi Lion. Quant à Alain Chabat, il est hyper touchant dans son rôle de clown triste dans Papa de Maurice Barthélémy.
Bon, et alors cette nouvelle approche de la paternité, on la trouve aussi dans la chanson.
Mais oui, les chanteurs parlent de l'amour immense qu'ils ont pour leurs enfants. Et c'est évidemment, on va commencer avec lui, ça fait beaucoup trop longtemps.
Évidemment.
Jean-Jacques Goldman, qui regarde son enfant dormir. En sachant bien qu'un jour il partira.
Dors, mon amour, dors. Mon amour, dors. Pleure, dors encore. Oh, dors. Mon amour, dors. Mon amour, dors. Il pleure, dors encore.
J'en ai pris que 20 secondes.
Il n'est pas tout à fait demain.
Il n'est pas tout.
On a tiré presque une petite larme cette chanson. Album positif, je crois, de mémoire.
Bravo.
Non, c'est pas
positif.
Gris clair et gris foncé.
Non.
Ah d'accord. Bravo, j'ai essayé de vous avoir. Pascal Obispo, lui, n'a pas connu de plus grande année que celle de la naissance de son fils.
Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné.
C'est moins bien.
Alors ensuite il y a Riche, la chanson de Claudio Capéo dédiée à son fils, qui elle a été visionnée 42 millions de fois.
Tu seras peut-être pas le meilleur mon fils, et pourtant moi je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père?
Bon, mon préféré, évidemment, Ben Mazuet, hein, qui est devenu un autre homme depuis la naissance de ses deux garçons.
Mon petit homme, je savais la patience qu'il faut, mais pourtant, je savais pas que pour toi, j'en aurais autant, même pour les autres, tu vois, maintenant. Je suis Clément Livre, le monde gamin dans le train, je condamne plus, je comprends, je suis passé.
C'était oui, oui, j'adore cette chanson. Et puis Patrick Bruel ne fait pas qu'en parler avec Thierry Ardisson, non. Ses fils, c'est toute sa vie. Et entre l'adolescence et l'océan qui les sépare, puisque ses enfants habitent aux États-Unis, eh bien, Patrick Bruel n'espère qu'une seule chose, c'est qu'il ne perde pas le fil.
Ne perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat.
J'avais chanté pour une auditrice ici il y a deux semaines.
Je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat.
Alors, oui, oui, d'accord. C'est bien, vous avez mis un Goldman, d'or, bébé d'or. Il y a les papas et puis il y a les mamans qui font les bébés toutes seules.
Oui. Peut-être l'utiliser dans une prochaine chronique, mais tant pis, hein. C'est pas vous qui décidez.
Si vous continuez à parler sur du Goldman, il n'y aura plus jamais de prochaine chronique.
Oh là là.
Pour ces jeunes sont signes astrologiques. Où est la fée, un bébé tout seul.
Et on peut chanter quand même.
Bien sûr.
Toute la journée.
Si vous chantez avec nous dans vos voitures.
De décembre en été. La nourrice à la baby-sitter. Du paquet de couches au biberon de 4 heures.
Ah oui, c'est karaoké.
Et elle fume, fume, fume. Même au petit déjeuner. Elle défait son grand lit toute seule.
On va oublier en fait là.
Elle défait son grand lit toute seule.
On va vous laisser tout seul je crois.
Elle fait comme dans tous ces magazines. Où le fric et les sommes sont faciles.
Le bol. Je crois que les karaokés vont rouvrir aussi. Vous pourrez y aller, vous savez.
Toute la journée, elle court de décembre.
RTL, il est 20h.
Et les copines qui pleurent des heures au téléphone. Sa nouvelle féminité.
Bah on va être en retard pour la météo.
Sans blague. 56,